France Inter.
L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une de ce 13h, ce nouvel échange d'otages israéliens contre prisonniers palestiniens. Nous serons à Jérusalem avec Thibault Lefebvre. C'est le sixième échange depuis le début de la trêve, une trêve bien fragile. D'ailleurs, comment s'annonce la phase 2? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. Volodymyr Zelensky ne signera aucun accord de paix conclu dans son dos, sans l'Ukraine et sans l'Europe. Le président ukrainien appelle également ce matin l'Europe à créer sa propre armée. Nous irons à Pau, où François Bayrou expérimente la communication de crise, accusé par la gauche d'avoir menti sur son degré de connaissance des viols et autres agressions sexuelles au collège-lycée Béarnais de Bétarame. Et en tennis, eh bien voilà le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, suspendu 3 mois après un accord conclu avec l'Agence mondiale antidopage. On n'avait donc jamais vu ça. Après ce journal Secret d'Info, votre magazine d'investigation, Benoît Colomba, sur quel thème?
Eh bien, nous allons vous dévoiler l'ampleur du mouvement MeToo chez Air France. De nombreuses hôtesses et stewards témoignent de cas de harcèlement et d'agressions sexuelles au sein de la compagnie aérienne, des agressions banalisées qui, selon des documents et des témoignages, relèveraient d'une forme de culture d'entreprise.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta. Pour le sud-ouest au moins, ce sera printanier.
Oui, parce qu'on devrait atteindre 20 degrés à Biarritz sous un soleil généreux.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Le mode opératoire est donc à peu près chaque fois le même entre Israël et le Hamas. Sixième vague d'échanges ce matin. 3 otages binationaux ont été remis à Israël contre 369 détenus palestiniens, dont 4 ont dû être hospitalisés selon le Croissant Rouge. Thibault Lefebvre, vous êtes en direct de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Eric.
Il y a aussi ce matin ces images troublantes, ces photos publiées par l'autorité pénitentiaire israélienne.
Oui, avec ces dizaines d'anciens détenus, ils sont alignés dans la cour d'une prison. Ils portent tous un sweatshirt blanc avec sur le cœur l'étoile de David. Au même niveau, à droite, le logo en noir des services pénitentiaires israéliens et en dessous, cette phrase écrite en arabe. Nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas. C'est la deuxième fois que les autorités de l'État hébreu utilisent des prisonniers palestiniens pour faire passer sous la contrainte des messages. La semaine dernière, le comité international de la Croix-Rouge avait appelé les belligérants à faire preuve de dignité lors des échanges. Il n'a visiblement pas été écouté. 369 détenus sont libérés aujourd'hui. 36 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison à vie pour des crimes de sang.
Et donc Thibault, un peu plus tôt ce matin, 3 otages ont été libérés pour cette sixième vague d'échanges, alors que le cessez-le-feu est plus fragile que jamais. Hein.
Oui, ces 3 otages sont restés près de 500 jours aux mains du Hamas et du djihad islamique palestinien. Sagi Dekelchen, Sacha Troufanov et Yair Horn sont donc libres. Les 3 hommes ont été exhibés sur une estrade installée à Khan Younes au sud de Gaza et ils étaient en apparente bonne forme, rien à voir en tout cas avec les terrifiantes images des 3 otages relâchés la semaine dernière, la peau sur les os et le teint blafard. Les 3 hommes sont binationaux, américains, russes et argentins. Ils sont originaires du même kibboutz décimé de Niroz. Il reste encore, Eric, 3 semaines avant la fin théorique de la première phase de la trêve. 6 otages vivants et 8 dépouilles doivent être rendues à Israël en échange de 500 à 700 détenus palestiniens.
Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Ce qui est donc en devenir désormais, c'est l'approche de la phase 2 de cet accord de cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas s'attend d'ailleurs à des négociations dès la semaine prochaine. Cette deuxième phase est censée permettre la libération de tous les otages et aussi la fin définitive de la guerre. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique, professeur à Sciences Po. La première phase de cette trêve va durer en principe jusqu'à la fin du mois de février. Elle a été fragilisée ces derniers jours. Est-ce que la phase 2 est menacée à son tour ?
Alors, je vous dirais d'abord qu'elle a été fragilisée, mais pas tellement par les deux belligérants. Elle a été fragilisée par les rodomontades du président américain. Parce que, au fond, le gouvernement israélien, comme le Hamas, a globalement respecté la trêve et s'arrange les deux côtés. Alors, pour des raisons très différentes sur lesquelles on pourrait revenir, mais je ne suis pas certain que la deuxième phase soit si fragile que ça. Pourquoi ? Parce que, dans toute trêve, et la longue histoire militaire nous le dit, dans tout cessez-le-feu, il y a un point commun par définition aux belligérants, c'est un intérêt à ce que ça dure. Et du côté du Hamas, qui ne nous laissons pas bercer par les images, il est écrasé militairement, il est écrasé politiquement, il n'a strictement aucun allié et la plupart des États arabes n'en veulent pas. Donc la seule chance pour le Hamas d'essayer de figurer dans un futur gouvernement palestinien, notamment dans la bande de Gaza aux côtés de l'autorité palestinienne, c'est de réussir cet échange et de survivre. Et du côté du gouvernement israélien, où Netanyahou est très faible dans les sondages, c'est effectivement pouvoir redorer en quelque sorte son blason en récupérant l'intégralité des otages.
Et si tout se passe comme prévu, il y aura ensuite la phase 3, celle qui sera consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza. Qui pourrait d'ailleurs administrer l'enclave ? L'autorité palestinienne ?
Oui, c'est la seule entité palestinienne, d'abord légale et légitime aux yeux du droit international. Il n'y en a pas d'autre, et c'est certainement pas le Hamas. Premier point. Deuxième point, j'y crois d'autant plus qu'elle serait vraisemblablement soutenue par les deux puissances financières du Golfe. Donc j'ai cité les Émirats, mais aussi la fameuse Arabie Saoudite, sur laquelle tout le monde, et notamment les Américains, comptent beaucoup pour reconstruire Gaza. Sachant que ces pays, mais également des États modérés, je pense à l'Égypte, je pense à la Jordanie, je pense au lointain Maroc, ne veulent pas des frères musulmans, c'est-à-dire du Hamas. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, ça reste, en dépit des fanfaronnades américaines actuelles, le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, d'où je rappelle, elle a été chassée par la force, par le Hamas en juin 2007. C'est reste, à mon avis, là, la probabilité principale.
Et puis les discussions doivent donc aussi porter, je pense à la phase 2, là pour le coup, sur les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, vous l'avez dit, l'Arabie Saoudite que le président américain souhaite, des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite que le président américain souhaite normaliser. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je signale votre dernier livre, Frédéric Ancel, avec pour titre « Les voies de la puissance ». Le livre est paru chez Odile Jacob.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Et nous partons à Pau, où François Bayrou, qui est non seulement Premier ministre, mais aussi le maire de la ville, tente de faire retomber la polémique le concernant à propos du collège-lycée privé de Bétarame dans les Pyrénées-Atlantiques. La gauche et Mediapart affirment qu'il était informé des violences et agressions sexuelles, les viols qui ont duré plusieurs décennies dans cet établissement catholique. Lui dit au contraire qu'il n'a jamais eu connaissance de ces actes. Et donc ce matin, comme pour faire retomber la pression. Bonjour Élie Abergel, vous êtes sur place à Pau. François Bayrou a donc rencontré ce matin d'anciens élèves de l'Association des victimes.
La délégation des victimes de Notre-Dame de Bétarame est arrivée il y a plus d'une heure à l'hôtel de ville qui fait face aux premières montagnes des Pyrénées. Leur porte-parole Alain Esquer attendait ce moment depuis longtemps.
Nous sommes 9 à être reçus par François Bayrou, enfin. On a beaucoup de choses à lui dire.
Un homme tient une pancarte. Bayrou démission. Il est venu exprès des Landes pour manifester son soutien aux victimes, dit-il. La gauche accuse François Bayrou d'avoir su et de n'avoir rien dit des violences sexuelles à Bétarame. Et même si le collectif des victimes attend beaucoup d'explications du Premier ministre, Alain Esquer ne veut pas en faire uniquement son procès.
Si on fait le procès de François Bayrou, ça sera le procès de toute la population locale. Tout le monde savait. Tout le monde. Tout le monde savait que Bétarame, il y avait des violences. C'est d'ailleurs ce qui faisait l'ADN de cet établissement.
Le chef du gouvernement, lui, a rejoint Pau ce matin avec le premier vol Paris-Pau. La réunion dure depuis un peu plus d'une heure maintenant. François Bayrou prendra le temps qu'il faudra, martèle la mairie de la ville. Le chef du gouvernement s'exprimera ensuite à la presse dans la foulée. François Bayrou veut reprendre la main sur ce scandale qui le fait sévèrement tanguer.
Élie Abergel à Pau, et je précise que l'établissement privé de Bétarame fait l'objet d'une enquête judiciaire judiciaire diligenté par le parquet de Pau après plus d'une centaine de plaintes déposées donc par les victimes depuis les années 60. Voilà donc depuis ce matin la réponse de l'Ukraine à l'éventuel projet américano-russe de régler entre eux la guerre en Ukraine. Et bien ce matin, Volodymyr Zelensky a appelé l'Europe à agir aussi pour son propre avenir en envisageant désormais son propre modèle de défense.
Soyons honnêtes, nous ne pouvons pas exclure la possibilité de voir les États-Unis nous dire non à l'Europe face à des menaces. De nombreux leaders ont parlé de l'Europe qui a besoin de ses propres forces militaires, une armée européenne. Et je crois véritablement que le temps est venu, les forces armées de l'Europe doivent être créées.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce matin à la conférence sur la sécurité, ça se passe à Munich, où vous êtes Eric Bégala, bonjour.
Bonjour Eric.
Et donc depuis que les Américains et les Russes ont donné l'impression de vouloir trouver entre eux une sortie de guerre en Ukraine, cette réponse ce matin de Volodymyr Zelensky était attendue. Elle a confirmé aussi que l'Europe avait intérêt à relancer sa défense.
Oui, l'armée européenne que le président Zelensky appelle de ses vœux, vous l'avez entendu, doit pouvoir à terme remplacer le contingent américain aujourd'hui déployé en Europe. Parce que, a poursuivi le président ukrainien, le désengagement américain de l'Europe est désormais une véritable possibilité. Volodymyr Zelensky a même proposé que si un tel retrait américain du sol européen devait se profiler, actuellement les États-Unis ont quelques 85 000 hommes déployés sur le continent, l'armée ukrainienne pourrait elle-même se déployer en remplacement. Une armée ukrainienne aujourd'hui largement aguerri et particulièrement contre la menace russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz est lui aussi revenu longuement sur les efforts de réarmement qu'il faudra consentir en Europe, notamment en Allemagne. Et pour ce faire, le chancelier propose d'investir massivement, non pas en puisant dans le budget fédéral, mais en empruntant. Et pour ce faire, Olaf Scholz propose que le prochain gouvernement, dont il compte bien faire partie, assouplisse franchement les règles qui jusqu'à présent corsettent le budget. La dette publique allemande, a-t-il remarqué, aujourd'hui ne représente que 60% du produit intérieur brut contre 120% pour les États-Unis. Autant dire que l'Allemagne, de ce point de vue-là, a de la marge.
Eric Bégala, en direct de Munich, où se tient la conférence sur la sécurité et où les Américains sont venus à Munich donc pour aussi donner des leçons de démocratie à l'Europe. L'administration de Trump reproche notamment aux Européens de ne pas laisser s'exprimer tous les points de vue sur les réseaux sociaux, y compris les plus extrêmes. Cette différence d'approche sur la liberté d'expression, plus largement sur le journalisme d'ailleurs, on la mesure aussi aux sanctions qu'est en train d'imposer la Maison-Blanche à certains journalistes. Et c'est la plus grande agence de presse du monde qui en fait les frais en ce moment, Associated Press, AP, qui se voit privée indéfiniment d'accès au bureau ovale et même aussi à l'avion présidentiel d'Air Force One. Bonjour Frédéric Seitz.
Bonjour Eric.
Associated Press qui est donc accusée de ne pas se plier aux injonctions de Donald Trump.
Et notamment à l'une de ses premières décisions, rebaptisée le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique, l'agence de presse refuse de suivre au motif que ce changement de nom est unilatéral, qui n'a pas été reconnu par d'autres États. La mesure de rétorsion, vous le disiez, donc tombée, AP n'aura plus accès au bureau ovale ni à l'avion présidentiel. Alors ce n'est pas uniquement symbolique, ce sont des lieux où Donald Trump donne des informations, souvent de manière impromptue. Bref, un coup dur pour cette agence de presse, lue dans le monde entier, mais la Maison-Blanche assume par la voix de sa porte-parole Caroline Leavitt.
C'est un fait que cette partie de la mer au large des côtes de la Louisiane s'appelle le Golfe d'Amérique. Je ne comprends pas pourquoi certains médias refusent de l'appeler comme ça. Mais c'est ainsi et pas autrement.
Et pour renforcer la pression sur Associated Press, la porte-parole de la Maison-Blanche insiste, d'autres entreprises se sont montrées bien plus dociles pour appliquer le changement de nom décidé par Donald Trump.
Apple l'a fait, Google l'a fait, comme presque tous les médias dans cette salle. Et c'est très important pour l'administration Trump, pas seulement pour les gens ici aux États-Unis, mais pour le monde entier.
Et Associated Press dénonce une atteinte à la liberté d'expression que Donald Trump avait pourtant placée au cœur de sa campagne.
Frédéric Seitz, rédaction internationale de Radio France. 69 migrants ont été secourus ce matin. Une personne est décédée la nuit dernière au large de Calais. Une embarcation a fait naufrage au niveau du chenal de Calais. En France, la droite multiplie les annonces de fermeté contre l'insécurité. La gauche est taxée de laxisme. Un exemple à Grenoble, là où le maire écologiste Éric Piolle est accusé de dogmatisme au moment où les actes de violence s'enchaînent dans sa ville. L'élu campe sur ses positions, notamment sur son refus d'armer sa police municipale. Et bien à gauche, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Dans la commune voisine d'Échirolles notamment, cette mairie communiste, elle aussi confrontée au narcotrafic, a fait d'autres choix, des choix différents en matière de sécurité. Reportage à Échirolles de Sonia Gobry.
À Échirolles, la police municipale est armée depuis sa création dans les années 70. Le maire était communiste, comme Amandine Demort, à la tête de la municipalité aujourd'hui. Elle souligne que sa ville a fait figure de précurseur pour la vidéosurveillance.
Ville de gauche, hein, première commune en Isère à déployer des caméras sur son territoire. C'est discutable, je le sais, mais ça apporte un sentiment de sécurité aux habitants. Et ça contribue aussi au travail d'enquête, notamment sur le narcotrafic. Et c'est pour ça aussi qu'on continue le déploiement.
Mais certains de ses électeurs, comme Michel, sont plus sceptiques.
En gros, c'est un échec de toutes les autres réponses. Et là, maintenant, la rustine, le joint de culasse, c'est la vidéosurveillance. Mais il y avait tout un tas de trucs sociaux à faire qui ont été démembrés depuis 20 ans.
La faute à la droite, rétorque la maire communiste.
Nicolas Sarkozy, c'est quand même lui qui a détruit la police de proximité. Il a dit « je ne veux plus voir les policiers jouer au ballon avec les gamins ». Ce lien police-population, il a cassé tout ça, quoi.
Il y a un consensus à gauche pour rétablir la police de proximité, mais sur les questions de sécurité en général, il y a comme un malaise.
La gauche s'interroge beaucoup, mais bien sûr qu'on a plein de choses à dire et à porter là-dessus. On peut être progressiste et parler de sécurité, je le redis.
Mais l'élu communiste qui a rencontré Bruno Retailleau hier à Grenoble est bien obligé de constater que la droite est plus audible sur les questions de sécurité.
Sonia Gobry. Alors que certains sont déjà en vacances et que d'autres commencent à l'être aujourd'hui. Pour ceux qui vont skier en famille, l'association Gestes Propres veut les sensibiliser à la pollution, contre les déchets, les mégots, les restes de pique-nique sur les pistes. 250 tonnes seraient ainsi abandonnées chaque année dans les montagnes françaises. Reportage Linda Rousseau.
Le constat est assez alarmant. Sous chaque télésiège, on trouve en moyenne 30 000 mégots de cigarettes chaque année. Un mégot jeté, c'est 50 000 litres d'eau polluée via les ruisseaux et rivières, rappelle Axel Gibert, membre de l'association France Nature Environnement.
Un mégot, ça met entre 1 an et 5 ans à se dégrader. On va avoir une pollution des sols qui va être engendrée et certains composants des filtres de cigarettes peuvent mettre jusqu'à 10 ans à se dégrader.
Quant aux pots de banane et autres trognons de pommes, ce sont certes des déchets biodégradables, mais ils nuisent à la biodiversité. Aude Guillaumard, déléguée générale de Gestes Propres.
Un déchet, même s'il est biodégradable, il peut faire des dégâts sur la faune et la flore locale. Les animaux, par exemple, vont être attirés par ces biodéchets et sans forcément avoir un système digestif adapté.
Mégots et restes de repas, ce sont deux sources de pollution facilement évitables. Aude Guillaumard.
Notre objectif est de rappeler que chacun est responsable de ses déchets. Quand on part par exemple avec un pique-nique ou qu'on a un encas ou encore qu'on est fumeur, on sait qu'on va générer des déchets et donc on peut prévoir un petit sac, un cendrier de poche pour les ramener chez soi.
Aller à la montagne, c'est chercher de beaux espaces naturels, alors autant les préserver.
En tennis, on n'avait jamais vu ça. Un numéro 1 mondial suspendu pour cause de dopage. L'Italien Yannick Sinner sera suspendu 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 4 mai, en vertu d'un accord qu'il vient de conclure avec l'Agence mondiale antidopage. On peut dire aussi, Clara Lecoq-Créal, que le numéro 1 du tennis a échappé au pire.
Yannick Sinner parle de négligence. Il a été en contact avec un anabolisant interdit sans s'en rendre compte. Et depuis, il s'est séparé d'une partie de son équipe médicale. Le tennisman italien avait d'ailleurs été discrètement blanchi par une agence indépendante l'année dernière. Mais ce n'était pas l'avis de l'Agence mondiale antidopage qui avait saisi le tribunal arbitral du sport pour demander 1 à 2 ans loin des terrains. Yannick Sinner risquait gros, il le savait. Et il a donc négocié pour décrocher cette suspension beaucoup plus courte, à peine 3 mois, avant que le tribunal ne puisse décider quoi que ce soit. Cette période lui a permis entre-temps de gagner l'US Open et l'Open d'Australie. Dans les semaines qui viennent, il va certes rater 4 Masters 1000, ne pourra pas défendre par exemple son titre à Miami, mais il aura repris pour Roland-Garros le prochain Grand Chelem. et Yannick Sinner devrait toujours être en tête du classement ATP au printemps prochain.
La musique à présent, vous l'avez peut-être suivi hier soir en direct sur France Inter, la 40e cérémonie des victoires de la musique avec Zaoud Sagazan, artiste féminine de l'année, Gims, artiste masculin. Et concernant la jeune scène française, Solane a été sacrée révélation féminine de l'année.
Je me sens comme un agneau qui ne dit pardon au loup.
Solane, 25 ans, son premier album est sorti il y a un mois et une adhésion immédiate du public pour ses textes.
D'avoir trop résisté, d'avoir eu sa robe de rouge se tacher.
Mes chansons, elles sont pas du tout joyeuses et je m'attendais pas à ce que les gens accrochent autant. C'était pas calculé, mais c'était une heureuse surprise de voir qu'effectivement, enfin, je pouvais balancer mes petites névroses, mes petits problèmes et que les gens réagissaient très bien à ça.
Comment est-ce que vous vivez cette accélération, ce tourbillon?
Je sais pas, je la subis, mais c'est-à-dire que je suis dedans, j'ai pas grand chose à dire dans ça, mais je me laisse porter, je suis très bien entourée, donc je pense que ça aide énormément. Puis je retiens surtout les hurlements de mon équipe quand j'ai gagné. Non mais c'est con, mais ça joue énormément. Je passe mon temps avec ces personnes-là. On a construit beaucoup de musique ensemble et j'étais heureuse de recevoir ça parce que je le recevais aussi pour eux.
Solane, révélation féminine de l'année. Elle était l'invitée ce matin de la matinale d'Inter. Le temps.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
L'après-midi sera plus ou moins ensoleillé.
Oui, plus ou moins parce que le soleil sera bien présent partout, mais sous un voile nuageux un peu épais du nord-ouest jusqu'au centre, bassin parisien et Hauts-de-France, un voile un petit peu plus fin du nord de l'Aquitaine jusqu'au massif central et en remontant vers la Bourgogne, quand sur les régions les plus au sud et sur tout le flanc est, là ce sera un soleil généreux. On notera quand même un petit peu de vent d'autan sur les plaines toulousaines et puis du vent également sur les côtes corses, où là aussi le soleil sera bien présent.
Et dans une ambiance encore bien fraîche sur la moitié nord.
Oui, sur la moitié nord et le centre-est avec 4 degrés à Nancy, 5 à Lille, 6 à Paris, 7 à Lyon, 8 à Besançon et 9 à Nantes. Voyons, on ne va pas dépasser les 10 degrés. Beaucoup plus doux sur la moitié sud, 12 degrés à La Rochelle, 13 à Montpellier, 15 à Bordeaux, 17 à Auch et même 20 degrés attendus à Biarritz où l'ambiance sera printanière.
C'était Céline Dacosta.